c'est le tout.
Le dodécaèdre, c'est le platon, c'est aussi le...
Parce que c'est l'un auquel on ajoute zéro, et à ce moment-là, c'est le tout. 17 est très important dans le sens que c'est le tout lié au divin et à l'humain. Et alors, ce serait la tétrakis, à ce point de vue-là, ce serait vraiment le chiffre absolument parfait au point de vue du monde. Donc, c'est la totalité de l'univers quand il prend tous les poissons. Pierre, c'est vraiment la catholicité. C'est la catholicité, parce que c'est la totalité, 17.
La prière, c'est ça, de taille. Moi, j'ai dit 17, et j'ai regardé aussi dans le prologue, le verset 17 est très
intéressant. Oui, mais alors les chapitres ne sont pas inscrits. Les chapitres ne sont pas inscrits. Les chapitres ont été ajoutés après, alors ça, évidemment, c'est un rythme particulier, mais ils n'ont pas été inspirés. Donc, on peut raisonner là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est pour ça que
le livre Je crois que les nombres confirment, mais on ne peut pas raisonner sur les nombres.
Mais il faut savoir comment ça a été bâti.
Exactement. Il faut d'abord regarder la réalité et ensuite le nombre vient confirmer. C'est un saut, le nombre, toujours. Mais quand vous disiez que les nombres c'est plus divin, c'était un, c'est plus formel. La formalisation des mathématiques, ça c'est pas le nombre, ça c'est sûr. Mais c'est l'apport aussi plus de l'intelligence. Donc c'est moins tout proche de la réalité. Et le passage du réel à la formalisation mathématique se fait par la géométrie. C'est ce qu'on cherchait tout à l'heure. Mais par où elle rejoint le réel. Et par où on comprend comment l'exigence de construire appelait les mathématiques. Continuons. Ce qui m'intéresse, donc, c'est ça, c'est cette espèce de chose qu'Aristote cherche. Alors, Aristote souligne ici cette chose très importante pour nous, c'est que au niveau du devenir, il y a les cinq causes. Au niveau métaphysique, il y a les deux causes. Ça aussi, c'est une chose très curieuse. La question du chiffre. C'est très intéressant, parce que ça c'est très intéressant parce qu'au niveau naturel, il y a les cinq causes, parce qu'il y a même la causalité exemplaire. La causalité exemplaire joue un rôle très important dans l'Aristote de Deschelot. Deschelot est commandé par la causalité exemplaire. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ce serait une discussion extrêmement intéressante de savoir dans quelle mesure nous pouvons garder ce que nous pouvons garder du détruire. Il faudra faire ça une fois. C'est parce que je crois que ça c'est très important. Qu'est-ce que nous pouvons garder du détruire? C'est très délicat, c'est très difficile à bien voir, mais c'est intéressant. Qu'est-ce que nous pouvons garder de la cause exemplaire? Mais dans une philosophie de la nature. Alors, la philosophie de la nature implique la philosophie des astres. Ah, c'est sûr. Alors, partout il y a devenir, c'est ça qui m'intéresse ici. Partout il y a devenir, il y a les cinq causes. Je crois qu'on peut dire ça. Partout il y a devenir, il y a les cinq causes. Seul. Alors, donc il y a trois causes qui sont liées au devenir. Et deux causes seulement qui dépassent le devenir. Les deux causes qui dépassent le devenir, c'est le point de vue de la fin et le point de vue de la fin. Ce sont les deux causes qui dépassent le point de vue du devenir, que je conçois comme capable d'être au-delà du devenir. Ce qui montre que la recherche de l'être a une simplicité qui dépasse notre conditionnement humain. Je suis parfaitement à l'aise dans le devenir. Je ne suis jamais totalement à l'aise dans le devenir. Parce que à la place d'avoir 5 points, j'en ai plus de 2. Alors, il faudrait se demander si, justement, dans l'ordre proprement de l'être, Aristote dit deux formes, il ne parle pas ici du point de vue du modèle. Est-ce qu'il peut y avoir une cause exemplaire dans l'ordre de l'être? Il y a une cause exemplaire, mais ça ne te le traite pas. intéressant. Posez-vous la question. Pour moi, c'est pas une question de l'être. Est-ce que l'un joue le rôle de propriété de cause exemplaire? Ce qui serait intéressant à voir, ce serait tout un développement de la philosophie de l'un qu'Aristote n'a pas fait, qu'on pourrait se poser la question s'il y a une cause exemplaire dans l'ordre de l'être. C'est toujours très très délicat. Oui, sûrement. Et les idées divines sont au niveau de la création. Mais, alors, au niveau de la création, nous retrouvons le devenir. Un devenir particulier, mais nous retrouvons le devenir. Alors là, on le retrouve. Puis on retrouve le factuel et on retrouve le point de vue artistique. Alors, il est évident que c'est le point de vue artistique où la cause exemplaire est première. Alors, est-ce qu'on peut transposer la cause, une recherche au niveau de l'être à la cause exemplaire? C'est ça, là il mesure. Alors est-ce que ce serait, voyez là, le péché du néoplatonisme? La faute du néoplatonisme, c'est d'avoir fait de l'un une cause, et une cause exemplaire. Alors ce serait très intéressant d'essayer de comprendre si le propre du néoplatonisme, c'est d'avoir introduit en métaphysique une causalité exemplaire. Alors que la causalité exemplaire ne pénètre pas en métaphysique. Et je pose ça en point d'interrogation. Mais c'est important de se la poser, oui. C'est un principe de détermination.
Oui, de détermination et de devenir.
Mais, ah non, pas directement, c'est la nature. Je ne peux pas dire que la substance est cause de devenir.
Non, d'autonomie.
Attends, pardon, j'avais de devenir, mais. D'autonomie, oui, d'autonomie.
Ça ne se pose pas radicalement en ce qu'on demande à une cause exemplaire. Au niveau métaphysique.
Oui, la détermination étant une détermination aussi radicale que celle de la substance, elle supprime le point de vue de la causalité exemplaire.
La cause efficiente aussi.
Quoi? La cause efficiente aussi. La cause efficiente, la cause efficiente aussi. Ça, il n'y a pas de problème. Là. Ce qui est délicat, c'est la cause exemplaire. Parce que, comme il y a une cause formelle, est-ce qu'on peut dire la cause exemplaire, c'est du côté de la cause formelle, comme une transcendance dans la cause formelle? On dit cause exemplaire parce qu'on est en face d'une morphée et non pas d'une eidos. Si on est en face d'une forme, d'une cause formelle qui est liée à la matière, la cause formelle liée à la matière a besoin de la cause exemplaire. Mais une cause formelle qui est séparée de la matière n'a plus besoin de la cause exemplaire. C'est la question du lien avec la matière. Je crois que c'est ça qu'on doit dire. Cause de lien avec la matière. Et par le fait même, son autonomie. Mais c'est plus immédiatement, c'est le lien avec la matière. Oui. C'est quand la cause formelle est liée à la matière, elle a besoin d'un complément, qui est la cause exemplaire, qui est l'eidos. Tandis que lorsque la cause formelle est par elle-même séparée de la matière, elle n'a plus besoin de l'aidance. Elle est. Alors, continuons. L'objet de la recherche échappe surtout dans ceux qui ne sont pas dits d'une autre manière. Par exemple, on recherche ce qu'est l'homme, parce qu'on le dit simplement, et on ne détermine pas qu'il est ainsi ou ainsi. Quand il s'agit de réalité simple, la recherche s'arrête. Alors ça serait intéressant, vous voyez là, avec la réminiscence de Merleau-Ponty. Quand Merleau-Ponty définit la philosophie, une recherche. Dès que vous trouvez, il définit la philosophie, une recherche. La philosophie n'est qu'une recherche. Qu'il y ait une recherche en philosophie, c'est bien évident, et qu'il y ait une recherche permanente en philosophie, c'est bien évident, mais je ne peux pas définir la philosophie une recherche, parce que ça supprimerait la possibilité de la découverte. Donc ça supprimerait le principe, ça supprimerait la découverte de l'individu. Si l'intelligence est capable de toucher un principe, si l'intelligence est capable de toucher une cause, l'intelligence ne recherche pas. Alors que la découverte de la loi fait rebondir la recherche. Là aussi, c'est très différent. Et ça, c'est très différencié comme mentalité du philosophe et du savant. Parce que ça fait comprendre comment la loi appelle une autre loi, alors que le principe et la cause n'appellent pas une autre loi, n'appellent pas un autre principe et une autre cause. Parce que c'est quelque chose d'indivisible. Or, l'indivisible arrête la recherche. Dès que vous trouvez quelque chose d'indivisible, vous ne cherchez plus.
Peut-être l'exemple d'une réalité simple.
Qu'est-ce que c'est ?
L'exemple d'une réalité simple.
L'exemple d'une réalité simple, mais c'est pas grave.
Une génération.
Ah, vous avez découvert ?
C'est l'exemple et non pas la recherche.
Non, elle est composée à cause de notre corps. Notre âme, elle est bien cachée. Je vais voir. Donc, je la cherche. Et quand vous parlez, je dis de la part humaine. Si vous m'avez. Puisque vous m'interrogez, je dis là. Et je découvre votre âme comme un principe et comme une cause. Et là, je ne cherche plus. Donc, la découverte d'un principe et quelque chose d'indivisible arrête ma recherche. Je peux dire, ah, j'ai mal trouvé, parce que je l'ai découvert que d'une façon pas très, très. Je recherche tout le temps. Je rechercherai indéfiniment à mieux connaître votre âme. Heureusement. Je ne dis pas maintenant, je m'en connais, ça y est, je peux vous mettre dans un fichier, ça y est, hein, vous êtes classé. Non, je ne peux pas dire ça, parce que je ne vous connais pas, je vous connais analogiquement. Je vous connais de façon très très imparfaite. On connaît toujours de façon très imparfaite là. Mais vous n'avez aucune expérience de la simplicité et de l'individu. Aucune. Les expériences sont tout le temps dans le devenir. C'est pour ça que je dis que le jugement d'existence, ceci est méta-expérience. C'est quelque chose qui dépasse. Sur mon expérience, c'est toujours l'incomplétude. Mais il faut chercher en décomposant. Oui, en décomposant. Je cherche quand je suis en face de quelque chose de composé. Sinon, ce serait quelque chose de commun au fait de chercher, de ne rien chercher. Puisqu'il faut que l'être existe et soit donné, il est évident que ce que l'on recherche, c'est pourquoi la matière est telle. Par exemple, ces matériaux sont une maison, pourquoi ? Parce qu'à ces matériaux appartient la pulité de la maison. On dira de même que ceci est un homme, ou plutôt ce corps possédant telle forme est un homme. De sorte que ce qui est recherché, c'est la cause de la matière, c'est-à-dire la forme idée. Le logos, c'est la pulité, et ici, il dit la forme idée. Par laquelle quelque chose existe tel. Et cela, c'est la substance. Et donc, la substance, il l'avait par le point de l'Eidos, là, je comprends très bien, vous voyez, comment Tricot, quand il dit ça, dit, mais oui, vous voyez, la substance, c'est la forme. Il a oublié tout ça, la diversité des fluidités. Ce serait intéressant de voir comment on peut confondre certaines choses que dit Aristote. Il est évident qu'à l'égard de l'être saint, aucune recherche, ni aucun enseignement n'est possible. Je ne peux pas enseigner les choses simples. L'enseignement, c'est pour ça que comme l'enseignement est toujours à l'égard des autres, des choses composées, c'est pour ça que l'enseignement si facilement devient composé et complexe. Parce que bon, l'enseignement n'est jamais à l'égard des choses simples. Les choses simples sont au-delà de l'enseignement. Je ne peux pas vous donner l'intelligible d'un indivisible. Vous saisissez ou vous saisissez pas. L'esprit, vous saisissez ou vous saisissez pas. Seulement vous en avez et vous l'exercez. C'est la chose. Il est évident qu'à l'égard des êtres simples, aucune recherche, mais aucun enseignement n'est possible. Parce que l'enseignement se fait toujours à partir de la recherche. Au fond, vous enseignez en donnant la méthode de la recherche. Pas autrement. C'est le propre de l'enseignement. Mais une autre méthode de recherche s'impose pour de tels objets. Alors, de recherche. Une autre méthode de recherche. Il n'y a plus de recherche, il y a une autre méthode. Je crois que ce petit passage d'Aristote est aussi très intéressant pour montrer qu'Aristote est très, très, très conscient que la métaphysique, quand elle, la philosophie première, quand elle se transforme en théologie, change de méthode. Ça, c'est impossible à faire comprendre aujourd'hui. Impossible. Je ne peux pas faire comprendre que le livre lambda d'Aristote implique une autre méthode que le livre zeta. Comment voulez-vous que la philologie puisse faire comprendre ça? Impossible. Et c'est très important, vous voyez, très important de comprendre que quand on est en théorie culturelle, on a une autre méthode que quand on fait l'analyse de la philosophie première. C'est une autre méthode de recherche pour de tels objets, s'impose pour de tels objets. Puisque ce qui est composé de quelque chose de telle manière, que le tout est un et semblable, non pas à une juxtaposition, mais à la syllabe. Or, la syllabe n'est pas les éléments, l'être composant de A n'est pas identique à B et à A, ni la chair au feu et à la terre, car étant dissous, les tout, c'est-à-dire la chair et la syllabe, n'existent plus, tandis que les éléments existent, le feu et la terre. La syllabe est donc quelque chose qui n'est pas seulement les éléments, voyelles et consonnes, mais elle est autre chose encore. Et la chair n'est pas seulement le feu et la terre, ou le chaud ou le froid, mais autre chose encore. Autre chose, encore quelque chose de différent. Mais n'est-il pas nécessaire que ce quelque chose soit lui aussi un élément? Donc, vous voyez que l'induction est faite d'une façon extrêmement rapide. Alors, c'est très intéressant de voir les éléments d'Anarisade. Il y a deux exemples donnent la maison et le banc. Et puis la chair. On pourrait multiplier les exemples, ça n'a pas d'importance. Il montre ça. Alors, qu'est-ce que ça implique? Il implique une recherche. Toute recherche implique une direction. Il n'y a pas de recherche. C'est le hasard. Donc, toute recherche implique une interrogation. C'est l'interrogation qui oriente la recherche, qui dirige la recherche. Donc, pour qu'il y ait induction, il faut l'expérience du composé, il faut l'interrogation et il faut avoir l'intelligence. Pour découvrir la cause. Puisque la découverte de la cause nous remet en face de l'intelligence dans un état natif. Chaque fois que l'intelligence découvre une cause, l'intelligence, elle est dans un état natif. C'est l'intelligence comme intelligence. Rien, absolument rien, ne peut permettre de découvrir la cause. Donc c'est un bon. Intellectuel. Il y a un saut. Le saut de Kierkegaard, hein, c'est ça. Il y a un saut, il y a un bout. L'intelligence passe du visible à l'invisible. Et ce passage du visible à l'invisible se fait grâce à l'interrogation et par l'intelligence qui cherche le logos. Mais c'est très simple. Hein. On comprend très bien comment on a donné le point de vue de l'induction, l'arc tendu. C'est exactement ça. Je tends l'arc. Je tends l'arc par l'interrogation. Mon intelligence est tendue dans la mesure même où je cherche. Autrement, elle n'est pas tendue. Si il n'y a pas d'interrogation, il n'y a pas de découverte. Donc, l'interrogation implique l'attention. Celui qui interroge est très attentif. Quand vous lisez un livre sans interroger, il y a des tas de choses que vous ne voyez pas. Si vous lisez ce livre en interrogeant, il faut bien poser des interrogations, parce que si elles sont à côté, vous ne trouverez rien. Si vous regardez, si vous interrogez un massif en disant « il y a du gibier dedans », et vous cherchez le lièvre et vous ne regardez rien d'autre. Et s'il n'y a pas de lièvre, il n'y a rien. Non, il n'y a pas de lièvre. Pas la même chose. Vous savez bien, c'est toujours la même chose. C'est Sartre quand il dit ça. Je vais au café et Pierre n'est pas là. Donc il n'y a rien. Parce que je cherche Pierre. Si Pierre n'est pas là, il n'y a personne. C'est très important de comprendre l'arc tendu. C'est l'intelligence tendue orientée pour découvrir quelque chose. Et c'est pour ça que s'il n'y a pas l'interrogation, je ne comprends pas. Alors vous voyez qu'Aristote a montré les conditions nécessaires pour l'induction. Il ne l'a pas expliqué. Il a donné les conditions nécessaires, il a fait la critique. Alors, il y a deux grands passages pour l'induction, celui-ci, et puis la logique. Et il dit que la logique, c'est la découverte des principes, et que les principes, c'est par l'expérience. Et que la science présuppose des principes. Très curieux, il n'y a pas d'explication entre celle-là. Alors. Et la chair n'est pas seulement le feu et la terre, ou le chaud, le froid, mais autre chose. Mais n'est-il pas, alors, ici, révélation critique au carré. C'est très bien ce que vous avez dit. Très bien de dire ça. Mais. N'est-il pas nécessaire que ce quelque chose soit lui aussi ou un élément ou un composé d'éléments? C'est très bien de dire ça, mais au fond, est-ce que vous êtes sûr de saisir la cause? C'est toujours ce que dira le psychologue. Est-ce que vous êtes sûr de saisir la cause? Est-ce qu'au fond, vous ne saisissez pas tout simplement un élément ou un autre élément? Et de cet élément, vous devriez vous demander, est-ce qu'il est simple ou est-ce qu'il est composé? Si c'est un élément, le même raisonnement se répétera, car la chair sera constituée par cet élément avec le feu, la terre et autre chose encore, de sorte qu'on ira à l'infini. Alors nous retrouvons ici cette fameuse chose, on ne peut pas remonter à l'infini. Ça c'est la garde-fou. C'est le garde-fou qui montre que l'induction comme l'induction me fait saisir quelque chose qui me permet à mon intelligence de m'arrêter. Autrement, je ne pourrais pas. Je serai en face d'une recherche indéfinie, et une recherche indéfinie tue la recherche. Ça, c'est contre Merleau-Ponty. C'est contre Merleau-Ponty. Aristote dit ça contre Merleau-Ponty. Définir, rechercher la recherche pour la recherche, ce n'est plus la recherche. La recherche a toujours un but déterminé, parce qu'il y a l'interrogation. Donc elle a un but déterminé. Mais c'est un composé d'éléments, il est évident qu'il ne sera pas composé d'un seul élément, mais de plusieurs. Sinon ce quelque chose sera lui-même. De sorte que de nouveau, à son sujet, nous ferons le même raisonnement qu'à l'égard de la chair et de la cima. Cependant, il semblerait bien que ceci soit quelque chose et non un élément, et qui soit cause, du moins, que ceci soit la chair, et cela une cima. Il en est de même dans d'autres cas. On universalise. Or, ceci, c'est la substance de chacun. Et c'est là la première cause de son être. Et puisque certaines choses ne sont pas des substances, toutes celles qui sont des substances sont constituées selon la nature et par nature, la nature elle-même, qui n'est pas un élément, mais un principe semblerait être la substance. Un élément, c'est ce en quoi une chose se divise, comme matière par exemple, pour la syllabe A et B. Vous voyez que ça c'est une petite glose marginale, n'est-ce pas, tout simplement. Ça montre très bien l'élément qu'on rejette, mais c'est pour distinguer la cause de l'élément. Je vous salue, Marie. Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu.